Le journal présenté par Caroline Félix.
Bonjour à tous. L'image d'une poignée de main entre Vladimir Poutine et Donald Trump, voilà ce que l'on retient pour l'instant du sommet tant attendu sur l'Ukraine en Alaska. Car sur le fond, il n'y a eu aucune avancée concrète. Résumé de la rencontre avec l'envoyé spécial à Anchorage. Donald Trump qui repart bredouille ou presque, on verra pourquoi, avec l'analyse d'une spécialiste ukrainienne. Et puis les pharmaciens français laisseront le rideau baisser aujourd'hui. Ils protestent contre la fin d'une ristourne commerciale, une mesure qui pourrait être fatale à certaines officines. Pas de cessez-le-feu à l'horizon en Ukraine. C'était pourtant l'ambition affichée par Donald Trump avant le sommet avec Vladimir Poutine cette nuit. Les deux dirigeants sont restés 6 heures en Alaska, dont 3 heures de négociations entre les deux délégations. Rien n'a filtré de ces discussions. Sandrine Etoad-Andegg, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous êtes envoyée spéciale en Alaska. Devant la presse, les présidents russes et américains se sont réjouis des progrès, mais sur le fond, les deux dirigeants n'ont fait aucune annonce.
Oui, et la centaine de journalistes présents à cette conférence de presse avaient plein de questions à leur poser sur leur discussion, mais Donald Trump et Vladimir Poutine sont partis sans répondre à aucune, après une prise de parole elliptique de 12 minutes. En langage diplomatique, cet entretien a été qualifié de constructif par Vladimir Poutine. C'était une réunion très productive, a avancé le président américain. Mais concrètement, aucune annonce sur le sujet principal, un cessez-le-feu, un mot qui d'ailleurs n'a pas été prononcé. Vladimir Poutine, qui a dit espérer que l'entente, c'est le terme qu'il a employé, trouvé en Alaska, apportera selon lui la paix en Ukraine, tout en disant:
on doit éliminer les racines profondes de ce conflit, on l'a toujours répété, et il faut tenir compte de toutes les préoccupations légitimes de la Russie pour rétablir un équilibre sur la sécurité en Europe et dans le monde. Nous sommes aussi d'accord avec le président Trump sur le fait que la sécurité de l'Ukraine doit aussi être garantie, et nous sommes prêts à y travailler.
Sans préciser ce que cela implique. À ses côtés, Donald Trump, presque en retrait, moins loquace et démonstratif que d'habitude, a déclaré d'une voix enrouée « Nous n'y sommes pas, mais nous avons fait des progrès. Il n'y a pas d'accord jusqu'à ce qu'il y ait un accord. » Sur le chemin du retour vers Washington, le président américain a accordé une interview à la chaîne Fox News et laissé entendre que la balle était désormais dans le camp de Volodymyr Zelensky.
Après, vous savez, ce n'est pas encore un accord conclu, mais l'Ukraine doit l'approuver. Le président Zelensky doit l'approuver. Mais c'est une guerre terrible et chacun perd beaucoup, les deux parties perdent. J'espère qu'elle pourra se terminer, ce serait un grand accomplissement. Et cela permettrait de sauver 7000 vies par semaine.
Le président ukrainien qui, pour l'heure, n'a pas réagi.
Sandrine Etoad-Andegg avec Eric Audra au moyen technique. Et quelques heures après la fin de ce sommet, Vladimir Poutine a gagné du temps et a remporté la manche. Voilà l'analyse de Tetiana Agarkova, journaliste et politologue ukrainienne.
Toutes les phrases vagues que vous venez d'évoquer, il signifie une chose. Il signifie que Poutine a bien refusé ce que Trump voulait lui proposer et donc ce que tout le monde attendait de cette réunion. Tout d'abord, le cessez-le-feu. Parce que on était dans le contexte de l'ultimatum de Trump, on est dans le contexte de sanctions qui menacent la Russie. Aujourd'hui, pas de sanctions, en tout cas pas pour aujourd'hui. Nous n'avons rien obtenu puisque tout simplement, la Russie, elle ne veut que continuer la guerre. Parler de cause première, nous savons très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire voilà, la disparition de l'Ukraine, le retrait de l'OTAN dans les frontières de 1997, ce qu'il évoquait tout à l'heure. Ce sont des choses inacceptables et Donald Trump le sait très bien que ni les Européens ni Volodymyr Zelensky ne peuvent pas accepter ce que Poutine veut. Donc voilà, ça n'a abouti à rien puisque Poutine croit jusqu'aujourd'hui qu'il peut, que la Russie peut continuer la guerre et peut avoir des résultats sur le champ de bataille.
Tetiana Agarkova au micro de Jean-Christophe Martin sur France Info. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne a annoncé avoir repris 6 villages d'un secteur stratégique de l'est du pays. Les unités russes s'en étaient emparées ces derniers jours lors d'une avancée particulièrement rapide. À Gaza, l'ONU dresse un bilan humain catastrophique des distributions d'aide dans l'enclave. 1700 Palestiniens sont morts depuis fin mai en tentant de s'alimenter, en allant chercher de l'aide humanitaire. La plupart ont été tués par l'armée israélienne, d'après le Bureau des droits de l'homme de l'enclave. Au Pakistan, le bilan humain de la mousson s'alourdit. On compte désormais 225 morts en 48 heures. C'est la région montagneuse à la frontière avec l'Afghanistan qui est la plus touchée. Le Portugal est touché par plusieurs incendies. Ils ont fait une première victime hier à Guarda, dans l'est du pays, annonce du président de la République hier. Le Portugal a demandé de l'aide européenne et l'envoi de 4 avions canadairs pour rester sur le territoire jusqu'à lundi prochain. Une mobilisation massive est prévue dans les pharmacies aujourd'hui. Jusqu'à 90% des officines pourraient rester fermées. C'est ce que prévoit l'un des principaux syndicats du secteur. Il dénonce la fin de certains tarifs avantageux auxquels ils achetaient les génériques au laboratoire. Jusqu'à présent, les pharmacies pouvaient négocier des remises allant jusqu'à 40% du prix. Cette somme sera progressivement divisée par deux, Tara Schlegel.
Le décret du gouvernement Bayrou signifie un manque à gagner de 20 000 euros par an et par officine, calcule la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Certaines officines disent même jusqu'à 70 000 euros de manque à gagner. La SFPF se montre, elle, néanmoins prudente, expliquant à ses adhérents qu'il ne faut pas mettre les consommateurs à dos, car d'autres batailles vont se jouer à la rentrée. Philippe Bessé, président de la FSPF, s'indigne ainsi du doublement de la franchise sur les boîtes de médicaments, inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, les patients débourseront jusqu'à 100 euros par an, dit-il.
En vrai, les gens qui consomment 100 boîtes de médicaments par an, c'est uniquement les personnes âgées qui ont plusieurs pathologies. Donc, c'est ciblé comme impôt. Moi, je dis que c'est contraire au principe de la sécurité sociale. Pour rappel, le principe de la sécurité sociale, c'est on cotise selon ses moyens, on consomme selon ses besoins.
Et ces franchises devront être collectées par le pharmacien.
Vous imaginez, enfin, je vois un patient âgé qui a une petite retraite, je vais lui demander 10 euros pour ses médicaments, et à côté, juste à côté, je vais avoir une personne qui, parce qu'elle a des revenus modestes, elle a la C2S, avec la C2S, on ne paye pas la franchise. Je vais les avoir un comptoir, l'autre à l'autre comptoir.
Intenable. Cela va motiver une autre grève en septembre, au moment de la discussion du budget. En attendant, 8 pharmacies sur 10 devraient être fermées dès aujourd'hui.
Des explications de Tara Schlegel. Et puis la météo, 9e jour de vague de chaleur en France. 54 départements du Sud sont toujours en vigilance orange pour canicule.